Votre coach chez vous, une chronique proposée par Christine Huchette.
Christine Huchette, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Eh bien, voici notre dernière chronique autour des attitudes d'écoute, des styles de communication. Nous avons déjà largement échangé sur ce sujet en abordant toute une série d'attitudes, à commencer par le jugement, ensuite la décision, après le soutien, l'interprétation. Et nous allons désormais arriver aux deux derniers aspects qui sont centrés sur l'autre. Il s'agit de l'enquête et de la reformulation. Alors justement, puisque j'évoque la question de reformulation, est-ce que Christine, vous accepteriez de reformuler, de faire un tout petit résumé de tout ce que vous avez exprimé jusqu'alors?
Question difficile, donc esprit de synthèse, on va essayer.
Oui, c'est compliqué, c'est l'esprit de synthèse, je suis d'accord avec vous.
Alors, en fait, le but de cette chronique était de sensibiliser les auditeurs sur nos styles de communication et surtout sur la manière dont on écoute les gens. Parce que quelquefois, eh bien, on ne sait pas qu'on écoute avec une posture centrée sur soi ou avec une posture centrée sur l'autre. Moi, personnellement, quand j'ai découvert ces styles de communication, j'étais vraiment très intéressée parce que je trouvais que c'était d'une part tellement vrai qu'on pouvait vraiment être dans l'une ou l'autre de ces postures. Et quand on y travaille, quand on s'y intéresse, quand on s'y penche et qu'on regarde ça à peu près dans le détail, eh bien, on comprend mieux certaines réactions des personnes qui sont avec nous. C'est-à-dire, est-ce qu'elles vont se sentir tout à fait à l'unisson avec nous et avoir envie de continuer la conversation, ou au contraire, est-ce qu'on va ressentir une espèce de réaction agressive par rapport à nous-mêmes, donc dans le sens où la personne ne se sent pas comprise, écoutée, et elle pourrait même nous reprocher notre manque d'intérêt, alors qu'en fait, nous étions persuadés nous-mêmes d'être tout à fait, comme on dit aujourd'hui, à l'écoute.
C'est sûr que quand on parle du jugement, eh bien, on se sent en général critiqué, donc il y a une distance qui s'établit. Je pense que quand on nous accompagne simplement dans une reformulation, j'imagine que c'est ce dont vous allez nous parler dans quelques instants, alors là, on se sent beaucoup plus accompagné, oui.
Par contre, une fois de plus, toutes les attitudes ont leur intérêt, hein, même le jugement, puisque si nous portons une grande estime à la personne qui est en face de nous et que cette personne nous dit « c'est bien, c'est comme ça, tu as raison », on ne va pas s'en plaindre. Mais si la personne dit « c'est bien, c'est comme ça, tu as raison », on comprend bien que c'est par rapport à l'idée qu'elle se faisait aussi du discours. Donc c'est intéressant aussi, par exemple, si vous jugez quelqu'un et que la personne, du coup, se sent complètement niée dans ses croyances, puisqu'on juge et on dit que c'est pas du tout ça. Parfois, moi, je pense que comme tout à chacun, je suis parfois dans des attitudes de jugement, et c'est le retour de l'autre qui me fait prendre conscience que, bah oui, effectivement, là, j'ai réagi par rapport à moi-même. Et je pense que le fait de connaître ces attitudes peut nous amener à une certaine compréhension de nous-mêmes, une compréhension de ce qui s'est passé entre soi et l'autre, et puis une compréhension de sagesse aussi. C'est-à-dire, en fait, eh bien oui, j'accepte l'idée que l'autre ne soit pas à l'aise avec ce que je viens de dire, parce que finalement, j'étais dans une posture plutôt centrée sur moi que plutôt centrée sur lui. Mais par contre, si on prend par exemple la décision, qui est une attitude centrée sur soi, là, elle est nécessaire. Par exemple, je parlais d'urgence, urgence à l'hôpital, urgence lors d'un accident, urgence lors d'une catastrophe. Je veux dire, voilà, il y a des choses où on attend, on est vraiment content quand il y a des personnes qui prennent des décisions, surtout quand elles prennent les bonnes décisions.
Alors aujourd'hui, nous allons aborder les deux derniers points, celui qui correspond à l'enquête et celui qui correspond à la reformulation, et on se rapproche effectivement de l'autre par rapport à ces deux aspects. L'enquête, tout d'abord.
Si vous permettez, en préambule, je dirais, qu'est-ce qui fait qu'on va se mettre plutôt dans une posture centrée sur l'autre? C'est à partir du moment où on va poser des questions. C'est-à-dire que l'on est suffisamment humble, qu'on présente une certaine humilité face à notre propre compréhension des choses et qu'on accepte de faire vérifier ce que l'on a compris par l'autre. Et l'autre est sensible au fait que l'on soit intéressé par ce qu'il a dit et surtout préoccupé de bien comprendre ce qu'il a dit pour être au plus juste de là où il en est. Donc nous avons vu que l'interprétation, nous étions déjà dans l'idée d'offrir une interprétation et d'en recevoir éventuellement une critique. Et en tout cas, c'était une ouverture pour que l'autre puisse s'exprimer par rapport à ce qu'il avait dit. Et là, nous allons dans les attitudes dites enquête et reformulation. Et là, on voit bien que le questionnement va intervenir. Alors donc, bien sûr, enquête dit effectivement questionnement. Donc, quand nous avons une posture d'écoute qui est proche de l'enquête, cela va dire que nous allons poser un certain nombre de questions pour pouvoir comprendre ce que dit l'autre. On pose souvent des questions ouvertes, hein, qui commencent par qui, par quoi, par quel, comment, quand, où, pourquoi. Et donc, ces questions dites ouvertes amènent un certain nombre de réponses relativement riches et permet à l'autre de s'exprimer. Donc, c'est ce qui est très positif. Donc, c'est ce qu'on appelle les entretiens semi-directifs, c'est-à-dire qu'il faut poser un certain nombre de questions, mais pas trop, mais quand même lancer le débat. Alors, ce qui est négatif, c'est que si vous en posez trop, si vous posez trop de questions, la personne peut se demander si finalement elle est très claire. Est-ce que ses propos sont compréhensibles? Est-ce que son esprit de géométrie est suffisamment en alerte? Donc ça, c'est une première chose, donc il faut faire attention. On peut se sentir très vite mal à l'aise quand on reçoit une avalanche de questions, même si la personne qui pose les questions est tout à fait dans une attitude de bonne volonté, de compréhension et de vouloir vraiment bien comprendre. Donc les personnes qui sont très perfectionnistes ont tendance à être un petit peu embarrassantes parce qu'elles vont en général vous poser beaucoup plus de questions parce qu'elles veulent aller au fond du fond, au fin du fin. Et quelquefois, ça peut paraître intrusif ou ingérant. Ensuite, moi, je voudrais vous parler d'une expérience que j'ai eue, toujours donc dans les séminaires de développement personnel, dans les stages que j'organise. Nous avions pratiqué l'écoute et quelqu'un donc a voulu tester la notion d'enquête. C'était Paul qui parlait de son hobby qui était de jouer au tarot. C'est un grand joueur de tarot et Sylviane ne connaissait pas le tarot. Donc Sylviane commence à poser des questions à Paul. Et là, vous voyez, on était dans l'enquête, on était dans l'idée que Sylviane posait des questions. Mais très vite, Paul s'est fatigué. Pourquoi ? Parce que les questions n'étaient pas centrées sur lui, mais centrées sur Sylviane. C'est-à-dire que Sylviane voulait découvrir le fonctionnement du jeu de tarot. Et donc les questions qu'elle posait n'étaient pas pour s'intéresser à ce que disait Paul, mais c'était pour enrichir ses connaissances. Et là aussi, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que quand on veut être centré sur l'autre, il faut poser des questions que l'autre reçoit comme étant des questions pour lui, pour qu'il puisse s'exprimer. Et non pas comme étant justement un flot de questions pour en savoir plus, quoi.
C'est là où le journaliste peut avoir un sujet à réflexion.
Tout à fait, voilà. Donc ça, c'est très intéressant, vous voyez, le risque et l'intérêt. C'est-à-dire que c'est une bonne posture centrée sur l'autre à partir du moment où on s'intéresse vraiment à l'autre et non pas poser des questions pour satisfaire sa propre curiosité.
Difficile équilibre.
Tout à fait.
Alors poursuivons et terminons avec la dimension de reformulation qui nous amène encore un petit peu plus loin.
Alors la reformulation, bien sûr, puisque c'est Porter et Rogers qui sont à l'origine de ces attitudes et de ces styles de communication, en tout cas de la description et du décryptage de ces différents styles, ils ont placé la reformulation comme étant la posture la plus centrée sur l'autre. Effectivement, si je reformule ce que vous dites, il est clair que je ne prends pas beaucoup parti puisque je répète. Mais bon, l'idée est justement de le faire intelligemment et de le faire pour toujours faire en sorte que l'autre puisse s'exprimer davantage.
Oui, parce que si vous répétez exactement ce que je viens de dire, je vais vous faire une drôle de tête.
Tout à fait. Oui, donc si j'ai bien compris, vous n'aimeriez pas que je redise ce que vous avez déjà dit.
Voilà, c'est bien dit, Christine. Je vous remercie beaucoup. Je préférerais que vous m'ameniez un peu plus loin.
Ok, alors j'ai utilisé le « si j'ai bien compris » puisque c'est la sacro-sainte expression pour caractériser la reformulation, puisque quand on ne sait pas comment reformuler ou quand on débute dans la reformulation, eh bien effectivement c'est la phrase que l'on suggère d'utiliser. Par contre, l'idée de la reformulation, c'est la reformulation peut être passive, c'est-à-dire qu'en fait quand on dit qu'elle est passive, ça va être par exemple du non-verbal. Alors à la radio, exprimer du non-verbal, c'est toujours un peu compliqué, mais le non-verbal, c'est votre sourire, c'est votre attention, c'est la tête qui va bouger d'une manière encourageante, et donc effectivement, c'est une manière de reformuler passivement. Dans les stages, on fait l'expérience de la personne qui va écouter en étant un petit peu rigide, en fixant la personne, en n'ayant aucune expression du regard. Et au contraire, quand elle est la manière dont je viens de vous décrire auparavant, souriante, attentive. Et là, on voit très bien que les récits s'arrêtent de manière différente. C'est-à-dire que si la personne n'a aucune expression sur le visage, le récit s'arrête très rapidement. On n'encourage pas la personne à parler. Alors qu'au contraire, quand on est avenant, on encourage de manière non verbale. Donc c'est une reformulation passive. Alors une autre manière de reformuler, autre que ce fameux, si j'ai bien compris, et autre que ce sourire omniprésent sur notre visage, eh bien c'est le silence. Pourquoi ? Parce que le silence, en général, n'est pas très confortable, ni pour les uns, ni pour les autres. Et donc, le fait que vous soyez silencieux et que vous attendiez que l'autre poursuive, en général, ça l'encourage à poursuivre. Le silence, ça permet aussi de ne pas perturber ou de ne pas intervenir et de ne pas donner peut-être une interprétation ou un soutien à mauvais escient ou au mauvais moment. Donc, pratiquer le silence, c'est aussi une manière d'encourager. On parle de reformulation passive quand on parle de silence.
Très bien. Est-ce qu'il y a là encore des difficultés, des risques en tout cas, par rapport à la reformulation ?
Eh bien, si la personne venait chercher des encouragements ou des conseils ou un soutien, ben là, effectivement, en reformulation, on apporte pas ces choses-là. Donc la personne peut peut-être trouver qu'en reformulation, on se mouille pas trop, si je peux prendre cette expression-là, on ne s'engage pas. Alors ça, c'est une perception. C'est-à-dire que nous, les coachs, on utilise énormément la reformulation, ce qui pourrait nous faire dire que voilà, c'est assez facile de coacher, finalement, il suffit d'écouter et de répéter, mais c'est pas du tout ça. En fait, on encourage effectivement la personne à s'exprimer de manière à ce qu'elle trouve elle-même, dans ce qu'elle exprime, des réponses à ses inquiétudes, à ses peurs, à ses freins. Alors effectivement, je vous ai dit que la reformulation, elle doit être couplée de questions, et le fait que nous soyons aussi complices de ce que la personne va dire, puisqu'on entend comme elle, eh bien nous allons après poser les questions de manière très non directive, pour que ce soit toujours la personne qui se sente vraiment dans l'interprétation de ses propres propos, et non pas dans notre interprétation, mais on posera des questions par rapport à ce qui a été dit. Donc la reformulation n'est pas un manque d'engagement, mais c'est vraiment l'idée de laisser toute la place. Mais ça rejoint, si vous voulez, ce que nous avons dit lors de toutes ces émissions, c'est que être dans une bonne posture d'écoute, c'est utiliser la bonne posture au bon moment.
Donc j'ai l'impression, au travers de ce que vous venez de dire, que nous devons être suffisamment attentifs aux besoins de l'autre, de manière à apporter les éléments qui conviennent au moment opportun.
Tout à fait. Et effectivement, la bonne posture d'écoute, c'est de comprendre l'environnement, de comprendre le questionnement de l'autre et de comprendre ce qu'il est venu chercher et éventuellement ce dont il a besoin.
Et du coup, Christine, je reviens aussi au mot empathie que vous employiez au tout début de cette série d'émissions, parce que je pense que c'est l'empathie qui, en quelque sorte, met du lien dans tout cela.
L'empathie met du lien, vous avez tout à fait raison, et l'empathie permet vraiment de résoudre le problème de l'autre. Et surtout, va aider l'autre, va lui donner un socle, va lui donner de la consistance. Et là, il faut vraiment qu'on fasse d'autres émissions parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur l'empathie.
Voilà, on a de la matière pour les émissions à venir. Christine Huchette, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé avec nous autour de ces attitudes d'écoute, ces styles de communication. J'espère que cela vous est utile à vous, auditeurs, que de réfléchir autour de cela. Et bien sûr, ce sont des sujets évidemment à approfondir encore. Merci encore Christine, et à une prochaine fois, peut-être pour l'empathie alors.
Merci à vous, et j'espère qu'on pourra développer ce thème de l'empathie ultérieurement.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Votre coach chez vous, une chronique proposée par Christine Huchette.